Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour le premier numéro que j'anime en 2025. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux de santé et bonheur pour cette nouvelle année. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à un livre paru récemment aux éditions Salvator. Il a pour titre Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme. Et nous allons en parler avec son auteur, le comédien et metteur en scène Pierre Fesquet. Bonjour Pierre Fesquet, merci d'être au rendez-vous pour évoquer sur Radio Présence Charles Aznavour et le livre que vous lui avez consacré. Et tout d'abord, très bonne année à vous aussi, bien sûr.
Bonne année Eric et bonne année à tous vos auditeurs.
Nous nous retrouvons ce début 2025, mais je rappelle que je vous avais déjà invité en avril dernier pour votre livre précédent, Piaf, un cri vers Dieu, également paru aux éditions Salvator. Il avait été question d'Aznavour dans cette émission, on sait à quel point les deux chanteurs étaient liés. Il y a donc une certaine logique à ce que vous vous intéressiez à cet autre monstre sacré de la chanson française. Mais vous concernant, le lien avec Aznavour, comme avec Piaf d'ailleurs, c'est encore une fois les compagnons de la chanson dont votre père organisait les tournées. Vous vous en expliquez d'ailleurs dans l'avant-propos de votre livre.
Absolument, Eric. Mon père avait une grande complicité et amitié avec Fred Mella, le soliste des compagnons de la chanson, et puis l'ensemble du groupe. Fred Mella était le meilleur ami de Charles Aznavour. Charles Aznavour était le parrain de sa fille. Et il se trouve qu'à 19 ans, lorsque la vocation du théâtre et de l'écriture m'est tombée dessus, mon père n'était pas tout à fait d'accord avec cette voix-là. Et il me dit, mais écoute, va voir mon ami Fred Mella. Il se trouve que Fred Mella donnait un concert pour un arbre de Noël chez mon père. Et je suis allé voir Fred Mella dans les coulisses du spectacle. Et je lui ai dit, voilà, mon envie d'être comédien, dramaturge. Et Fred Mella m'a tout de suite mis en garde et m'a donné comme exemple son ami Charles Aznavour en me disant, si t'es capable de renverser la table, de renverser le destin, comme l'a fait Charles, eh bien vas-y. Et j'avoue que là, j'ai eu très peur.
Oui, je peux comprendre. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce livre? Le titre laisse entendre qu'il est largement consacré au rapport qu'Aznavour entretenait avec la foi et avec Dieu. Mais je crois que vous avez aussi voulu montrer toutes les facettes de l'homme et de l'artiste, en commençant par le milieu dont il est issu, cette famille de migrants arméniens.
Oui, c'est-à-dire que j'avais écrit Piaf, un cri vers Dieu, où je montrais la foi, j'allais dire logique, hein, de par la vie de Piaf. Ici, c'est une foi plus rugueuse, j'allais dire. C'est un croyant qui doute. Hein. Lui-même, d'ailleurs, Aznavour se définissait comme un croyant qui doute. Et ce qui m'a beaucoup marqué, un petit peu comme Abraham, la famille d'Aznavour va quitter sa terre. On peut peut-être préciser hein, qui sont les parents. Le père d'Aznavour, c'est Micha Aznavourian, né dans le Petit Caucase, c'est un Arménien de Géorgie. Et la mère, c'est Knar Bagdasarian, qui est arménienne de Turquie et qui est née à Izmit. Et on peut dire hein, que cette histoire commence très mal, puisque la famille maternelle de Charles est totalement massacrée lors du génocide arménien de 1915. Seule sa mère et son arrière-grand-mère vont réchapper de ce supplice hein, qui va tuer 1,5 million d'Arméniens. Et qui commence dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, même si déjà de premiers pogroms, enfin de premiers massacres, avaient commencé au 19e siècle. Mais là, le génocide arménien a lieu dans la nuit du 24 au 25 avril 1915. Et 60 ans après, jour pour jour, on en parlera peut-être tout à l'heure, Sal Playel, Aznavour crée cette chanson magnifique. J'invite vos auditeurs à l'écouter, à la réécouter. Ils sont tombés. Voilà.
Oui, alors comme vous l'aviez fait pour votre livre sur Piaf, les 9 chapitres de celui-ci sont illustrés par des paroles de chansons d'Aznavour qui a mis beaucoup de sa vie, de ses expériences et de ses doutes, vous en parliez à l'instant, dans les textes qu'il chantait. Il y a aussi de très belles photos, on en reparlera. Et vous avez intitulé le premier chapitre « Les migrants ». Les migrants est l'apostrophe, hein, les migrants. C'est là qu'on découvre la famille et l'histoire familiale dont est issu Charles Aznavour. Vous parliez de ses parents. Il faut dire que tous les deux, ce sont des artistes, des chanteurs.
Oui, absolument, puisque le Micha, le père de Charles, est un chanteur d'opérette et il tourne, il part en tournée et c'est lors d'une tournée à Istanbul qu'il rencontre Knar. Il en tombe follement amoureux, il lui donne quelques cours de chant, elle entre dans la troupe et les voilà qui font des duos, des opérettes. Ils vont se marier et ils embarquent à bord d'un vieux paquebot italien qui s'appelle le Genova. Ils embarquent à destination de Marseille parce que Micha, le père de Charles, rêve de Paris. Son père, qui était un cuisinier du gouverneur de la capitale de Géorgie, Tbilissi, avait quitté son pays pour créer un restaurant, le Caucase, à Paris. Donc ça, c'est le grand-père paternel. Donc le père de Charles a envie de faire la même chose. Et en 1923, juste avant d'embarquer, va naître la sœur aînée de Charles Aznavour, qui va beaucoup compter. D'abord, c'est une musicienne hors pair, qui est toujours en vie, Aïda, qui naît en 1923 à Salonique, et qui est une centenaire pleine de jeunesse.
Charles Aznavour, lui, naît en 1924, dans cette famille de migrants arméniens. Est-ce qu'on peut dire que c'est pleinement un enfant de la balle
de mai. C'est pleinement un enfant de la balle, hein, parce que très très vite, donc Charles, il naît le 22 mai 1924 à la clinique Tanier, à Paris, dans le 5e arrondissement. Il devait s'appeler Chanourne, Chanour, mais Chanour, c'est difficile à orthographier, alors la sage-femme inscrit Charles. Et il dit, dans ses mémoires, nous étions un ghetto de gaieté. Lui, il se souvient, vers 3-4 ans, dansant à 2h du matin sur la table du salon, parce que son père invitait les voisins. C'était une ambiance très festive, avec des amis de toutes sortes, notamment, on en parlera, hein, des amis juifs, puisqu'ils vont cacher de l'occupant, hein, de nombreux immigrés, de nombreuses personnes qui se cachaient des nazis. Et Charles est baptisé dans le rite de l'église grégorienne arménienne en 1925.
Oui, alors c'est une famille bohème où règne la gaieté, hein, malgré les drames et les épreuves de la vie qui ont été nombreuses et qui vont l'être encore dans les années, même à Paris, il va y avoir la guerre. Mais ce qu'on apprend aussi dans ce premier chapitre, c'est que dès l'âge de 9 ans, Aznavour fait ses débuts de comédien.
Oui, exactement. Alors peut-être avant ça, on peut dire qu'il a habité le quartier latin et il va fréquenter, tout en étant donc arménien grégorien de religion, hein, religion grégorienne, il fréquente l'église Saint-Séverin et la rue Gilles-Cœur où il apprend à lire, à compter, dans une école où moi-même j'ai habité. C'est ça qui m'a beaucoup touché en écrivant ce livre, c'est que je me suis aperçu que j'avais habité l'école de Charles Aznavour. Et puis, effectivement, son père, après, va quitter le quartier latin pour ouvrir un bistrot rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement, en face de l'école du spectacle, fondée en 1924 par Raymond Rognoni, qui était de la Comédie française. Et ben, c'est extraordinaire d'avoir un voisin pareil. Charles passe une audition, ça marche, et il va devenir un enfant de la balle. Très tôt, il joue quasiment tous les soirs au théâtre. On le sait peu, ça. Il a joué aux côtés de Pierre Freinet et d'Yvonne Printemps et il apprend le métier de comédien. C'est vraiment un enfant de la balle.
Et oui, il devient finalement comédien avant d'être chanteur. Mais ça, on y reviendra bien sûr.
Il devient comédien avant d'être chanteur. Et d'ailleurs, c'est un chanteur comédien.
Oui, alors ça, on va en parler parce que c'est très très important. S'agissant de Charles Aznavour, il y a d'autres liens que personnellement, moi, j'ai découvert dans le deuxième chapitre de votre livre, un chapitre que vous avez titré « Les enfants de la guerre ». Ce sont les liens qui unissaient la famille Aznavour à Missak Manoukian, qu'elle a caché pendant l'occupation. Et le père de Charles Aznavour est même entré dans le réseau Manoukian. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet épisode assez méconnu, hein, tout de même?
Oui, tout à fait. Alors les titres des Les Enfants de la Guerre, c'est un titre de chanson. Souvent, j'ai repris
des
titres de Charles pour en faire des débuts de chapitre. Et effectivement, les familles Aznavourian et Manoukian se connaissaient bien avant la guerre, puisque Mélinée Manoukian, la future épouse de Missak, habitait, quand elle était fiancée à Missak, elle habitait chez un oncle de Charles Aznavour, donc avant son mariage. Les Aznavour habitent à ce moment-là, au moment de la guerre, au 22 rue de Navarin. Et là, il cache Manoukian, qui apprend d'ailleurs à Charles Aznavour à jouer aux échecs. Et il va même prophétiser un soir à Aznavour. La mère de Charles s'inquiète parce que c'est un peu un bohème. Et elle dit à Manoukian, mais qu'est-ce que Charles va devenir? Et Manoukian prophétise ceci, Charles sera l'honneur du peuple arménien et une gloire pour la France. C'est quand même assez extraordinaire. Il est au sein du réseau franc-tireur, hein, et partisan parisien de la main-d'œuvre immigrée. Et Manoukian est donc fusillé le 21 février 1944, puisque donc, il est entré au Panthéon le 21 février 2024 dernièrement. Et le président Macron a cité une chanson d'Aznavour dans son discours.
Oui, et d'ailleurs, le tout jeune Charles Aznavour, à l'époque, va lui-même assurer des missions, il va porter des messages, je crois, pendant l'occupation.
Ah oui, il va porter des messages, il cache aussi certains habits qu'il met dans les égouts la nuit à Paris, voilà, de gens recherchés par la Gestapo. Il va prendre des risques, puisque même il quitte le 22 rue de Navarin avec son père lorsque le réseau est démantelé, le réseau de résistants est démantelé, de Manoukian, et ils vont vivre en face du 22 rue de Navarin. Ça les sauve parce qu'un jour, les SS viennent les chercher et ne les trouvent pas.
Quand et de quelle façon commence la carrière de chanteur d'Aznavour sur scène? Mais en fait, elle commence pendant l'occupation.
Oui, elle commence pendant l'occupation, puisqu'en la sœur que j'évoquais tout à l'heure, Aïda Aznavour, fréquentait le club de la chanson, et c'est là qu'elle va faire se rencontrer Pierre Roche, qui va créer avec Aznavour le duo Roche et Aznavour. On les a oubliés, mais ils ont créé des choses absolument phénoménales, comme Je n'ai qu'un sou, Un peu de monnaie, enfin Le feutre topé, qui est absolument génial. Et c'est pour ça d'ailleurs que Aznavour n'est pas oublié en ce moment par la génération de slameurs et de rappeurs. C'est que c'était déjà du rap avant l'heure. Et donc, dès la fin de la guerre, Roche et Aznavour vont créer un duo qui va avoir beaucoup de succès. Et puis, il va y avoir une rencontre avec Édith Piaf. Piaf, juste après la guerre, hein, ils vont se rencontrer au studio Washington pour une émission en 46, hein, donc ça arrive très vite puisque elle l'emmène en Suisse en tournée avec les Compagnons de la Chanson en 47. Voilà, 5 janvier 1947, salle Washington, où il va chanter Le Feutre Topé, Tant de Monnaie et Il pleut, donc trois titres devant Piaf et Charles
Et
Trenet.
traîner.
Et là, Piaf est complètement conquise parce que elle lui dit, mais attends, t'as une voix de la rue, t'es comme moi, tu viens de la rue, tu viens du bal musette. Et elle est tellement conquise par Aznavour qu'elle en oublie le pauvre Pierre Roche, donc à contre-cœur, parce qu'elle voudrait très vite que Aznavour fasse une carrière solo, elle y croit, malgré sa voix blanche. Hein, on parlera de la voix des débuts d'Aznavour. Hein,
Ah oui,
il
le
avait
chanteur
vraiment une
sans voix,
voix
on
qui
l'appelle
passait
chanteur
pas.
sans voix, Aznavour, à ses débuts.
Absolument, Aznavour, on s'en est beaucoup moqué. Eh bien, elle l'emmène quand même en tournée en 47, puisque Aznavour lui dit, vous m'emmenez, Madame Piaf, vous m'emmenez, mais pour combien? Et elle lui dit, mais bougre de salaud, on paierait pour partir en tournée avec moi, tu verras ton cachet plus tard. Voilà. Ce qui veut dire qu'il avait quand même le sens du business, Charles, dès le début.
Il avait la réputation d'ailleurs d'avoir le sens de l'argent, même on pourrait dire, Charles
Ah,
Aznavour,
complètement.
comme souvent ceux qui ont manqué au début de leur vie. Alors il y a une chose, moi, qui m'a frappé en lisant le livre, c'est que, en fait, Piaf lui dit, tu as la même façon que moi de mordre dans les mots quand tu chantes. Et je crois que c'est ça qui l'a frappé elle-même.
Exactement, Eric. C'est ça qui va les réunir. C'est cette façon de dire les mots, j'allais dire un peu de les slammer. Et c'est ce qui va faire que Piaf va croire en lui, même si Fred Bella me l'avait dit ça en confidence. Elle était très dure avec Charles. Elle l'appelait son génicon. Hein, ils ont eu une espèce d'amitié amoureuse. C'était pas de l'amitié, c'est pas de l'amour. Et elle ne va pas, comme pour les Compagnons de la Chanson, elle cassait son entrée de vedette pour venir chanter les fameuses trois cloches avec les Compagnons. Ça, avec Aznavour, ça n'a pas lieu. Il porte les bagages, il fait la régie et elle mettra à son répertoire Jézabel, mais qu'en 1951. Donc, au début, elle le teste un peu. Alors que les compagnons me disaient, eux, qu'ils ont senti dès le début le génie d'Aznavour. Hein, quand il compose Jézabel, quand il compose Une enfant, Je n'ai qu'un sou, il y a déjà un poète, mais il y a aussi un interprète. Et ça, Piaf ne l'a peut-être pas vu tout de suite.
Oui, alors Aznavour, lui, dira que Piaf lui a tout appris. Il y a une anecdote aussi
Oui.
assez intéressante, c'est qu'il va s'installer chez elle à un moment donné. Il est marié quand il s'installe chez elle, il va divorcer rapidement, alors qu'il n'y a rien entre lui et
Ah
Piaf au niveau amoureux.
oui, c'est ça. On est en 49. Aznavour et Pierre Roche triomphent au Canada. D'ailleurs, ils vont croiser Piaf aussi aux États-Unis. Et puis, Pierre Roche va se fiancer avec une Québécoise. Et là, Édith se dit, bon, ben, il va ramener. C'est ce qui devait se passer d'ailleurs. Aznavour voulait repartir faire carrière au Québec. Et là, en 49, Piaf lui dit, tu arrêtes tout. Tu romps avec Pierre Roche parce que tu vas pas être duettiste toute ta vie au Québec. Tu romps aussi avec ta femme parce que voilà. Elle se plaint pas assez de voir, mais quand on est chanteur, on se marie pas. Et il va s'installer chez Piaf, où il va créer son fameux Jézabel en 51, puis Je hais les dimanches. Alors, Je hais les dimanches, c'est assez drôle parce que Piaf ne veut pas de cette chanson.
Oui, c'est
Et puis
Gréco qui va la
Gréco en
créer.
fait un succès. Piaf en est jalouse et finalement, elle le prend à son répertoire.
Oui, alors on en a un petit peu parlé déjà, mais je voudrais qu'on revienne dessus. C'est que Aznavour a en fait été reconnu assez rapidement en tant que parolier, même tout de suite, mais on lui reproche son physique, sa petite taille, et puis surtout cette voix voilée, cette voix blanche.
Oui, alors ça, c'est absolument incroyable. C'est vrai que quand on écoute les premiers enregistrements hein, d'Aznavour, par exemple, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle La Yiddish Mama, qu'il va réenregistrer en 98, on se dit, mais il a pris une voix à la Sinatra. Enfin, c'est une voix incroyable, la progression. Mais cette voix blanche de l'époque était peut-être trop en avance pour l'époque, alors que des gens comme les Compagnons aimaient beaucoup déjà ce timbre de voix. Et en fait, c'est au Maghreb, dans les années 50, que Charles Aznavour rencontre un triomphe incroyable, parce que son timbre de brouillard, comme l'appelle Aznavour, plaît beaucoup là-bas. Aznavour dira que c'est au Maghreb qu'il a pris confiance en lui et qu'il va essayer d'imposer ce timbre de voix. À l'époque, j'ai dû peut-être le dire tout à l'heure, c'était la voix de Tino Rossi ou c'était la voix de
Luis
Georges Guattari qui
Mariano,
était mise en avant.
des gens
C'était,
comme ça.
voilà, des voix en or et pas forcément un timbre comme celui d'Aznavour qui finira par s'imposer. Il y a un premier Olympia en 1955 où il va créer Sur ma vie et
C'est son
j'en
premier grand
donne un
succès,
extrait
ça.
parce premier grand succès. Face à Dieu qui priait, heureux je t'attendais, mais les orgues se sont tus car tu n'es pas venu et Dieu a disparu. Alors je donne pas mal d'extraits de chansons sur le mariage, parce que Charles Aznavour parle du sacrement du mariage d'une façon absolument incroyable. Alors j'imagine que c'est peut-être ce qu'il a fait aussi se rapprocher de Jean-Paul II, qui était un poète du mariage absolument fascinant. Donc voilà, Sur ma vie, premier grand succès, Olympia 55. On peut dire que Aznavour est adoubé par Paris, mais il faut surtout attendre. Et là, j'ai eu un très beau témoignage de Jacqueline Boyer pour le livre. C'est l'Alhambra, le 12 décembre 1960, où il va créer Je me voyais déjà, qui est un succès phénoménal, alors que la soirée avait quand même très mal commencé à
Oui, vous le
l'Alhambra. J'ai
racontez
le
dans le livre,
témoignage.
ça, oui.
Voilà, un public très froid, c'est très difficile. Et Aznavour confiera qu'il a pensé ce soir-là que sa carrière était finie. Il arrive à sa 7e chanson, qui est une surprise, en fait, où là, on voit le comédien qu'il est, puisqu'il joue un chanteur qui se change dans sa loge. Et c'est Je me voyais déjà. Ça se finit où il est de dos au public, le public reçoit les faisceaux des projecteurs et il a ce déhanchement extraordinaire, enfin, ce qu'il jouera jusqu'à la fin de sa vie. Et ben là, c'est extraordinaire. Il est adoubé par le tout Paris et sa carrière est lancée. Je cite cette chanson qu'il va écrire peu de temps après, où il dit « Pour ce destin que l'on se forge, avec des larmes au fond des yeux et des joies qui prennent à la gorge, merci mon Dieu. » Et la chanson s'appelle « Merci mon Dieu ».
Alors vous parlez des rencontres décisives hein, et des étapes décisives aussi dans sa carrière. Celle-ci en était une. Donc les rencontres, il y a eu Piaf, il y a les Compagnons, bien sûr. Il y a aussi Bernard Dimet, avec qui il a noué une amitié, une collaboration qui a duré, je crois, jusqu'à la mort de Dimet.
Oui, absolument. Bernard Dimet était un poète qui habitait la butte Montmartre. Et alors lui n'a pas du tout envisagé le métier pour Charles Aznavour. On était dans le show business, donc il fallait faire un peu du business, si vous me permettez l'expression. Or, Bernard Dimet était un poète qui écrivait dans les cafés, qui ne cherchait pas, lui, à être connu du grand public. Et ils vont écrire des chansons absolument magnifiques. Et souvent, il y a Le Carillonneur, qui est une chanson très, très drôle. Et puis, il y a aussi cette chanson sur la sainte patronne des Gitans, Sainte Sarah de Roumanie, dont j'ai obtenu les droits et qui est dans le livre, qui est absolument bouleversante. J'allais dire aussi, Bernard Dimet a donné un peu cette écriture spirituelle à Charles Aznavour, qui écrira deux chansons à partir de Notre Père, une chanson en 54 qui s'appelle Donnez-nous aujourd'hui, donc c'est le pain en fait. Et puis il y a une très belle chanson, on parlera d'Aznavour comédien, tirée du film Édith et Marcel, si je peux en dire un petit extrait, j'en serais ravi, qui s'appelle Prière à notre amour et qui reprend le paternoster. Notre amour qui est dans nos cœurs, que votre nom soit magnifié, que votre règne arrive et votre volonté nous suive sur la terre et dans l'éternité. Notre amour qui est dans nos cœurs, épargnez-nous les trahisons, gardez nos âmes pures, préservez-nous des déchirures et de la tentation. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir avoir les droits de ce texte que vos auditeurs pourront découvrir dans le livre. Et il y a toute l'influence de Bernard Dimet dans ces textes spirituels.
Il y a deux chapitres dans votre livre qui ont pour titre En haut de l'affiche et Viens voir le comédien, allusion encore une fois à deux chansons célèbres d'Aznavour. C'est le moment de parler du comédien Aznavour. Lui se voulait comédien quand il chantait sur scène. Je crois même que c'est comme ça que Truffaut a remarqué son talent d'acteur. Mais est-ce que vous pensez
Oui.
que l'acteur, le comédien Aznavour, a été et est encore sous-estimé de nos jours.
Ah, moi je le pense, mais c'est un peu le problème des carrières trop riches, c'est-à-dire que Charles Aznavour, il est sur scène à 4 ans et il chante à 94 ans, il est au Japon 10 jours avant sa mort. C'est phénoménal. Il aurait pu faire une carrière de comédien et arrêter sa carrière de chanteur, il aimait trop la chanson, mais on peut dire qu'il commence aux côtés de Bouloudji, puisque j'ai eu la chance d'avoir le fils, j'ai eu Grégory Bouloudji au téléphone l'autre jour, on l'évoquait. Ils se sont retrouvés tous les deux, Bouloudji et Aznavour, dans Les Disparus de Saint-Agile, de Christian Jacques. Et puis après, il y a beaucoup d'autres. Il y a Une gosse sans sas en 57, La tête contre les murs en 58, Le testament d'Orphée. Cocteau va beaucoup influencer, comme Cocteau d'ailleurs avait influencé Piaf. Cocteau va influencer Aznavour. Aznavour continuait, hein, ça l'agaçait. Moi, j'ai vu des manuscrits d'Aznavour, il y avait quelques fautes d'orthographe et ça agaçait Aznavour. Et donc, il avait demandé à Cocteau les livres qu'il fallait emmener sur une île déserte, enfin, les livres qu'il fallait avoir pour se forger. Et Aznavour a gardé jusqu'à la fin de sa vie la liste des livres à lire par Jean Cocteau. Donc, Le testament d'Orphée, Tiré sur le pianiste, bien sûr, qui est l'un des plus beaux rôles pour Aznavour. Et puis, il y a Le tambour de Schlendorf. Walker Schlendorf, Rocco et ses frères de Visconti. Il y a Une récompense en même temps que Rocco et ses frères. Hein. Il y a,
voilà. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a tout de suite été salué par la critique en tant que comédien, alors qu'en tant que chanteur, il lui a fallu de longues années avant d'être enfin reconnu.
C'est complètement le paradoxe, hein, de cette carrière. On pourrait citer, il y a Diptyneg, il y a bien sûr Ararat, oui. D'Atom Egoyan. Voilà, Egoyan en 97. Et puis moi, le film qui me touche le plus, hein, et j'évoquais le fameux Notre Père, écrit pour ce film, c'est Edith et Marcel, qui est sorti en 1983 de Claude Lelouch, où Aznavour joue son propre rôle. J'espère que ce film sera rediffusé un jour sur les écrans, parce qu'il est trop rare.
Avant d'évoquer Aznavour, l'homme de foi, et de parler de son rapport à la religion, nous allons faire une pause musicale dans cette émission en écoutant la chanson qui vous a inspiré le titre de ce livre. Charles Aznavour chante Dieu.
Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne avec Pierre Fesquet, auteur du livre Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme, paru aux éditions Salvator, Je ne suis qu'un homme, des mots que l'on vient d'entendre dans la chanson diffusée pendant la pause musicale de cette émission. Et à vous lire, Pierre Fesquet, on a le sentiment qu'Aznavour était une sorte d'intermittent de la foi, mais que la religion et en premier le culte dans lequel il a grandi, celui de l'église arménienne, occupait une place centrale dans sa vie, même dans ses chansons.
Oui, moi j'ai relu toutes ces chansons, hein. il y en a à peu près 1000. Hein. Eh bien, le mot âme revient 80 fois, et puis il y a beaucoup de chansons sur Dieu. Il y en a une notamment qui s'appelle « Merci mon Dieu », où il dit « 1000 fois j'ai entrevu le vide, mais Dieu restait mon guide, l'amour restait ma foi ». Dieu revient aussi très très régulièrement hein, dans les chansons d'Aznavour, qui se définissait comme un croyant qui doute quand même.
Oui, alors... On pourra citer la fameuse phrase de Bernanos, 24 heures de doute, mais une minute d'espérance. Et je crois que ça correspond bien à la foi que pouvait avoir Charles Aznavour. Est-ce que c'était un homme de prière, comme pouvait l'être Piaf, par exemple, une femme de prière?
C'était un homme de prière. Il l'a dit notamment au moment de la mort de sa mère. Il disait que dans la religion arménienne, on doit prier plusieurs jours à la suite. Je crois que c'est d'une durée d'un mois. Et que ça, il l'avait fait. Il pratiquait les rites de la religion grégorienne arménienne. Il y était très attaché. Il a même eu la possibilité de se remarier à l'église, à la cathédrale arménienne. L'église avait donc annulé son premier mariage parce que, disait-il, j'évoque souvent ma religion en scène. Alors l'évêque de l'époque avait dit, bah, écoutez, on peut annuler le premier mariage si autour du monde, en effet, vous évoquez votre religion comme ça.
Ah, il y a une chose aussi qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'apparemment, c'était un grand lecteur de la Bible.
Oui, c'était un grand lecteur de la Bible et d'ailleurs des livres des autres religions. Il était très marqué par la Bible, les images bibliques.
Oui, alors vous avez prononcé le mot, il était aussi connaisseur des autres religions, il s'y intéressait beaucoup. Il y avait un côté très interreligieux finalement chez lui, hein.
Oui, parce que il était devenu ambassadeur pour l'UNESCO. On peut évoquer le terrible tremblement de terre, hein, le 7 décembre 1988 en Arménie, où il va créer l'association Aznavour pour l'Arménie. Puis maintenant, Nicolas Aznavour s'occupe de la fondation Aznavour. Et cette fondation est très ouverte aux autres religions, à la culture entre les autres religions. Et d'ailleurs, il était allé, il y avait eu une exposition sur les chrétiens d'Orient. Et il s'y était rendu aux côtés de Mgr Gollnisch. Donc il était très, très soucieux hein, du dialogue entre les religions.
Dans ses chansons, il n'hésite pas à interroger Dieu, à le questionner, notamment par rapport évidemment à la misère que l'on peut constater quasi quotidiennement dans notre monde. Et il n'hésitait pas à faire part de ses doutes. C'était une sorte parfois même de dialogue avec Dieu, ses chansons.
Oui, oui, absolument. C'était un dialogue avec Dieu. Il disait souvent que, en titre de chanson, il prenait des expressions populaires, comme par exemple « Je me voyais déjà » ou « Tu te laisses aller », parce qu'il voulait rejoindre. Il voulait rejoindre les gens. Il voulait rejoindre l'homme de la rue pour partager, ces questions à la fois métaphysiques, spirituelles. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a des chansons comme « Camarade », par exemple. Je parle dans le livre de sa collaboration avec Jacques Plante, qui était un parolier de génie, qui a écrit Les Comédiens, qui a écrit Camarades. Et Aznavour dit que quand un texte est bien écrit, la musique se pose facilement dessus. Donc, puisque Aznavour a écrit la musique de Camarades, la musique des Comédiens. Pour La Mama, qui est écrit par le père de France Gall, il a simplement ajouté les Ave Maria pour aérer la chanson. Mais il disait qu'une bonne musique se posait sur de bons textes.
Alors vous évoquiez il y a quelques instants là, le terrible tremblement de terre de 1988 en Arménie et Charles Aznavour va vraiment s'investir personnellement à fond pour venir en aide aux Arméniens et il sera adulé jusqu'à la fin de sa vie dans ce pays, même encore aujourd'hui bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas aussi un chrétien culturel avec tous les guillemets qu'on veut, hein, par fidélité à son Arménie d'origine où l'on était persécuté pour sa foi religieuse ?
Vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y avait cet hommage à l'Arménie dans son attache à la religion. Et j'allais dire jusqu'à la façon d'écrire et de chanter. Il y a dans les chansons d'Aznavour, il y a énormément d'espoir, mais parfois dans une plainte qui pourrait être une plainte un peu de désespoir. Donc on sent, il y a toute la quatessence des chansons d'Aznavour, à mon avis, passe par sa foi, passe par ses drames, par le drame de l'Arménie, exactement.
Alors, il y a une chose aussi, c'est que, bon, on sait qu'Édith Piaf, on en avait parlé lorsqu'on avait fait l'émission sur le livre que vous lui avez consacré, était elle très dévouée à Sainte Thérèse de Lisieux. Mais je pense qu'Aznavour, lui, voit une dévotion particulière à la Vierge Marie.
Oui, exactement. Et l'origine de ce livre, c'est le titre « Dieu, je ne suis qu'un homme », moi qui m'avais bouleversé adolescent. Et puis, c'est en revoyant sans doute un jour Aznavour qui chante devant Jean-Paul II, le 26 septembre 2001, qui chante au mémorial dédié en Arménie, au mémorial dédié aux victimes du génocide d'Arménie, chanter son Ave Maria. Dans une émotion absolument incroyable, parce que Aznavour avait l'habitude de chanter devant des foules. Mais là, face à Jean-Paul II qui s'abîme dans la prière, on a Aznavour qui est écrasé par l'émotion. Et c'est pareil, j'invite vos auditeurs à revoir ce passage qu'on trouve facilement et qui est bouleversant et qui était aussi un peu à l'origine de ce livre, parce qu'on sent que Aznavour, dans cet Ave Maria, offre tout à la Sainte Vierge, à la fois sa vie, mais en même temps la vie du peuple d'Arménie. Ave Maria, ceux qui souffrent viennent à toi, toi qui as tant souffert, tu comprends leur misère et les partages, Marie courage. Ce sont les paroles de la chanson et de temps en temps, Jean-Paul II, qui était déjà affaibli par la maladie, pose son regard sur Aznavour et j'en suis, voyez, très ému en évoquant cette scène.
Oui, Jean-Paul II qui lui aussi voit une très grande dévotion à la Sainte Vierge, ça c'était déjà un point commun entre les deux hommes, et puis vous l'avez rappelé, qui avait été comédien de théâtre et même auteur de pièces de théâtre, La Boutique de l'Orfèvre, vous étiez venu la jouer à Toulouse il y a une dizaine d'années.
Exactement.
Ça a dû beaucoup les rapprocher aussi, je pense, l'amour de la scène, des planches et du théâtre.
Oui, absolument. Et Aznavour, après avoir rencontré Jean-Paul II en Arménie, a déclaré à la presse « Ce pape est un artiste. C'est un artiste pour ses poèmes, mais aussi parce qu'il voyage beaucoup comme moi à travers mes tournées. » Je voulais simplement dire, un jour Fred Bella m'a dit « Aznavour a renversé la table », c'est que Aznavour, c'est 110 pays visités, 9 langues chantées, plus de 800 chansons, 200 millions d'albums de par le monde. Et on a l'impression, quand on relit aussi le pontificat de Jean-Paul II, que ce sont des chiffres, ce sont deux personnes qui ont déplacé les foules. Et pour la petite histoire, je sais par un membre de la curie que de temps en temps, le pape François écoute Aznavour qui chante en espagnol. Alors voilà, c'est une affaire d'amour avec les papes qui continue.
Oui, parce que, bon, on n'en a pas parlé ça, mais Aznavour, c'est tout de même un des rares chanteurs français qui a une vraie grande carrière internationale, connue dans le monde entier, et notamment dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis.
Oui, absolument. Et le pape François, d'ailleurs, voulait faire venir Aznavour. Le Vatican aurait voulu organiser en 2015 un concert Aznavour pour l'Arménie. Bon, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Mais en tout cas, Aznavour pensait beaucoup de bien du pape François parce qu'il disait que c'était le premier pape qui avait utilisé le mot génocide pour parler du génocide arménien et que ça avait été un geste très fort. Et il disait, c'est un personnage très fort.
Vous avez évoqué au début de cette émission les rapports aussi très forts qu'entretenait Charles Aznavour avec la religion juive et les juifs eux-mêmes qui ont beaucoup compté au début de sa carrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a gardé vraiment jusqu'au bout.
Oui, oui, oui. La famille Aznavour avait habité à un moment donné le quartier du Marais et Charles avait beaucoup d'amis dans la communauté juive. D'ailleurs, il dit « Mon premier public, ça a été le public juif qui l'a accepté en tant que chanteur et il a été très marqué par la musique Askenaz. » Et il y a une magnifique chanson, malheureusement on ne peut pas tout passer, qui s'appelle « Yiddish Mama » que Aznavour va réenregistrer. Il en avait fait une première version, mais en 97, il a réenregistré. Et il dit, la Yiddish Mama, elle apporte la foi, elle apporte la prière. Et on sent toute l'influence de la musique juive dans les chansons d'Aznavour.
J'ai évoqué aussi les photos qu'on peut voir dans ce livre, à peu près au milieu du livre. Il y en a quelques-unes qui sont particulièrement chères à votre cœur parmi ces photos. Alors, il y a celle avec le pape Jean-Paul II lors de la fameuse rencontre en septembre 2001 en Arménie pour les 1700 ans de la conversion de l'Arménie.
C'est un peu miraculeux, Eric, parce que cette photo, nous la cherchions, nous la voulions. Et je crois que l'avant-veille du BAT, on a réussi à l'obtenir. Alors j'allais dire, c'est un petit miracle de Jean-Paul II et d'Aznavour. Et puis il y a des photos qui me touche beaucoup, puisque Hugues Vassal, qui avait été le photographe d'Édith Piaf, qui m'avait reçu pour mon livre et qui m'a offert des photos rares, des clichés rares d'Édith, il est mort un mois après notre rendez-vous, il y a un an et demi, quand j'écrivais pour Piaf. Et là, sa fille m'a offert des photos inédites, puisqu'il a été ensuite le photographe officiel d'Aznavour. Donc il y a des photos inédites d'Aznavour sur scène aux États-Unis. Donc c'est des photos chères à mon cœur. Puis quelques photos très rares de mon ami Roger Sbinden, un ami des Compagnons de la Chanson aussi, où on voit les Compagnons qui chantent le Galérien, puisque Charles Aznavour aurait dû entrer chez les Compagnons. Piaf le voulait, et les Compagnons ont refusé son entrée. Ils le trouvaient trop individualiste, disait Aznavour avec humour. Et bon, tant mieux pour la carrière d'Aznavour. Dommage, enfin, les Compagnons ont eu une très belle carrière, puisqu'ils ont quand même créé La Mama, Les Comédiens, qui étaient des chansons écrites par Aznavour pour les Compagnons.
Oui. Une dernière question, je me la pose souvent d'ailleurs lorsqu'on parle d'Aznavour. Est-ce qu'Aznavour a eu, selon vous évidemment, une descendance des héritiers dans la chanson française et ce jusqu'à nos jours? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qu'on peut citer comme étant des héritiers d'Aznavour?
Ben, je pense à des gens comme Linda Lemay, qui dit qu'elle a été influencée par Aznavour, et Aznavour a produit certains de ses titres, mais au Grand Corps Malade, ou certains slameurs. Puis comme je vous le disais, il a une façon de taper les mots, et puis ce qu'il a créé avec Pierre Roche, comme le Feutre Topé, qui est absolument génial, dont il a fait une reprise en 97, qu'on peut entendre sur Internet, c'est génial parce que c'est du rap, c'est du slam avant l'heure. Donc on peut dire que beaucoup de rappeurs d'ailleurs rendent hommage encore à Aznavour. Et pour moi, un de ses amis me disait qu'avec Piaf, il restera éternel dans la mémoire collective.
Moi, il y a aussi un chanteur qui me semble vraiment s'inscrire dans la lignée d'Aznavour, qui est d'une génération évidemment beaucoup plus proche que celle que vous venez de citer, c'est Serge Lama, qui pour moi est un très grand
Absolument.
Parolier, lui aussi sous-estimé à mon sens.
Un peu trop oublié, je suis entièrement de votre avis, et qui était très aimé par Aznavour.
Ils étaient proches d'ailleurs, je crois, tous les deux.
Qui était proche. Mais on peut dire, il y avait beaucoup de fantaisie aussi dans une chanson comme Tu te laisses aller, a pu influencer Annie Cordy. Il avait une grande admiration pour Annie Cordy. Et puis Nicoletta, qui a eu la gentillesse de
Elle a fait
une préface magnifique. Très belle préface, hein, me disait qu'à chaque duo pour les Mariti et Gilbert Carpentier, eh bien Aznavour faisait appel aux chanteuses, non pas qui débutaient, mais qui avaient besoin d'être sur scène. Et elle me disait à chaque fois, Charles, on a fait des duos jusqu'au bout. Et elle était très touchée. Il n'oubliait pas les gens qu'il a aidés dès le début.
Oui, parce qu'il a eu une réputation à un moment donné d'être quelqu'un près de ses sous, Aznavour. Or, en lisant votre livre, moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là.
Non, c'était un homme très généreux. En revanche, les affaires, j'ai un ami qui était éditeur et qui avait envie de sortir l'intégrale des textes des Compagnons de la Chanson. Alors, comme il savait que Fred Bella était son meilleur ami, il lui avait dit, est-ce qu'on pourrait avoir un petit passe-droit? Et Aznavour avait dit, les affaires sont les affaires, les amis sont les amis. Voilà, donc dans le cadre du boulot... Il pouvait être dur en affaires, mais il avait raison, c'était son travail, c'était ses chansons, mais il était très généreux pour ses amis.
Eh bien, on va terminer cette émission là-dessus. Je pense que ça résume bien l'homme qui était Charles Aznavour.
Un homme de cœur.
Merci infiniment, Pierre Fesquet, d'avoir été l'invité de cette émission. Et je recommande chaudement la lecture d'Aznavour, Dieu, je ne suis qu'un homme, paru aux éditions Salvatore. Je signale également que Pierre Fesquet est l'auteur de Notre-Dame des femmes, paru chez Desclés de Brouwer. Ce sont les femmes artistes qui racontent la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Pierre d'avoir été au rendez-vous de Vivante Église. Ce numéro était animé par Éric Dupri et réalisé par Christophe Aubry. Merci à nos auditeurs de leur fidélité à notre écoute. À la semaine prochaine.